15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Tous les jours, nous vous recevons de 15h à 16h et chez nous, dans ce studio, ce qui est bien, c'est que c'est sans rendez-vous, bien sûr. Sans rendez-vous, on parle de vos petits et gros bobos et promis, on le fait tous les jours dans la bonne humeur. Je dis on parce que je ne suis pas toute seule dans ce studio. Tous les jours, il prend soin de vous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Comment allez-vous?
Eh bien écoutez, ça va très bien et vous?
Bon, bah parfaitement, avec un temps morose et des complications pour se déplacer, mais tout va bien. Alors, je vous déroule le programme d'aujourd'hui. Notre grand dossier sera consacré à l'activité physique en tant que traitement à part entière. Et oui, bouger, on ne le dira jamais assez, c'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. Mais avec notre invité, le professeur François Carré, médecin du sport et cardiologue, vous verrez que même pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l'asthme ou même certaines maladies mentales, eh bien le sport peut parfois remplacer les médicaments. On fera le point. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de tous ces gestes qu'il faut mettre en pratique au quotidien pour éviter les virus. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler d'une infection sexuellement transmissible, assez active en ce moment, l'infection à gonorrhée. On vous dira tout, mais surtout, comment l'éviter. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de nudité dans le couple.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Marie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Faut-il vacciner un bébé de 4 mois contre la méningite B? Sachant que ceci est conseillé, il n'est pas encore obligatoire. Et est-il possible de faire ce vaccin un peu plus tard dans la vie de l'enfant? Je vous remercie.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'il y a un vaccin contre la méningite B qui est disponible en France, mais effectivement, de ce que j'en sais, il n'est pas obligatoire chez nous. Hein.
Exactement. Pour le moment, parmi les 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir de 2018, seul le vaccin contre la méningite de type C est obligatoire. Alors, il faut quand même rappeler que ça reste une maladie qui est assez fréquente. Et lorsqu'on parle de méningite, lorsqu'elle est bactérienne, dans 40% des cas, elle est liée à cette bactérie, le méningocoque de type B, d'où l'intérêt possible d'une vaccination. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette bactérie, on l'a de façon un peu naturelle. On ne peut être porteur asymptomatique au niveau de la salive. Et donc, pour une raison qu'on ne connaît pas, cette bactérie peut passer dans le sang, passer au niveau des méninges et développer ce qu'on appelle cette méningite. Et ça commence avec une température assez élevée. Un enfant qui peut se plaindre de maux de tête lorsqu'il est en âge de verbaliser, surtout un enfant lorsqu'il ne peut pas trop parler. Un enfant qui est tout mou, qui est prostré, qui fait que vomir en jet. Et parfois, vous avez des lésions qu'on appelle du purpura, des taches rouges qui apparaissent au niveau des membres inférieurs. Et la particularité, c'est lorsqu'on appuie sur ces lésions, elles restent toutes rouges, elles ne se décolorent pas. Et à ce moment-là, c'est une urgence absolue et il faut absolument aller à l'hôpital.
Donc on peut, d'ailleurs, il faut le préciser, hein, la méningite B ou autre, on peut en décéder. Ça peut être très grave, hein, on est d'accord?
Oui, sans traitement, évidemment que ça peut mener à la mort, tout simplement. C'est une maladie mortelle, d'où l'importance de la vaccination. Et elle est mortelle dans 5% des cas. Et c'est pour ça que dès l'apparition des premiers symptômes, les médecins, lorsque vous allez aux urgences, font une ponction lombaire et démarrent une antibiothérapie pour éviter le décès ou les séquelles neurologiques, car le risque est aussi là. Donc le meilleur moyen de prévention serait la vaccination, sauf que la Haute Autorité de Santé a dit qu'en 2013... qu'en France, ils avaient un doute sur l'efficacité et que les bénéfices seraient peut-être pas si importants que ça, d'où le fait que pour l'instant, il n'est pas obligatoire ni même recommandé.
Pourtant, en Angleterre, eux, ils le font à tous les enfants. Je crois que là-bas, c'est recommandé. Hein.
Exactement, ça est recommandé, ça a été introduit. Et ils ont eu même une très bonne couverture vaccinale, ce qui fait que le nombre de cas d'infection à méningite, de méningite à méningocoque de type B a plutôt diminué. Et donc, les discussions sont ouvertes pour peut-être l'intégrer à notre calendrier. Et les discussions devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2019.
Et en France, c'est en discussion, on y réfléchit. Pour l'instant, il n'est remboursé, en tout cas, que pour les personnes chez qui il est recommandé. Ce sont uniquement les personnes immunodéprimées. Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Sylvie. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie et bonjour docteur Mohamed. En fait, je vous appelle parce que j'ai une petite question. J'ai souvent des infections urinaires et on m'a conseillé de prendre du jus de cranberry en préventif. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce point. Voilà, merci.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, Jimmy. Est-ce que boire du jus de cranberries ou donc de canneberge, hein, c'est le fruit, le petit fruit rouge qui est à l'origine de ce jus, ça permet vraiment de prévenir les infections urinaires?
Alors c'est vrai que c'est pas très clair. Certaines études montrent une efficacité du jus de cranberry, que ce soit finalement en gélule ou en jus, les deux seraient équivalents. Mais d'autres disent que c'est finalement serait pas si efficace que ça. Or l'infection urinaire, la cystite, notamment chez la femme, c'est plutôt très fréquent. C'est 2 millions de femmes qui en subissent régulièrement. Et l'hypothèse c'est que lorsqu'on prend du jus de cranberry, maladie. Dans ce cranberry, il y a une substance active qu'on appelle la PAC-A.
Bon, le nom, peu importe.
Et cette substance empêcherait la bactérie qui est l'Escherichia coli d'adhérer aux parois de l'urètre ou de l'urtère, ce qui contribue à limiter l'infection. Et donc, à travers la destruction de ces lésions entre la bactérie et la paroi, eh ben, on éviterait l'infection urinaire. Mais pour ça, il faudrait au moins 36 mg de cette PAC-A par jour, et parfois, faut le reconnaître, dans le jus de cranberry qu'on peut acheter à la
c'est pas très concentré,
c'est fait de beaucoup de sucre et beaucoup d'eau, et donc si jamais il faut en acheter, c'est du pur jus et plutôt du bio.
Et j'imagine qu'il faut en boire beaucoup donc pour arriver à cette vraiment à cette quantité.
Oui, d'autant plus que ça dure 12 heures l'efficacité. L'idéal, c'est d'au moins boire 2 litres d'eau par jour si vous voulez pas boire du cranberry. Et puis si vous voulez, vous pouvez prendre aussi des capsules. Elles sont aussi efficaces que le jus parce que parfois le goût est un peu particulier et les patientes disent ne pas l'aimer par moment.
Ah oui, alors juste par contre ça marche et ça c'est prouvé. Il y a d'autres mesures de prévention des cystites quand même là qui sont efficaces, c'est sûr.
Exactement. Déjà, il faut traiter une constipation. La constipation, que ce soit chez la petite fille ou chez la femme, entraîne une cystite. Ensuite, il faut mieux éviter de porter des vêtements qui seraient trop serrés. La lingerie synthétique qui favorise la transpiration entraîne une pullulation de germes. Et puis n'oubliez pas, après les rapports sexuels, un petit pipi, ça limite le nombre d'infections urinaires.
Merci beaucoup Dimi pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, comme Sylvie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Dimi Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des gestes de prévention pour échapper au virus. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur François Carré, avec qui on fera le point sur les bénéfices de l'activité physique dans plusieurs maladies chroniques. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur François Carré qui va nous parler, qui va nous donner sa bonne ordonnance de sport pour traiter les maladies chroniques, c'est le moment du bon conseil du docteur Dimi Mohamed. Alors aujourd'hui Dimi, vous nous dites, d'ailleurs vous le dites régulièrement, nous sommes en pleine saison d'infection virale, vous envoyez beaucoup en consultation et aujourd'hui vous nous parlez des gestes pour éviter de tomber malade. Les autorités sanitaires viennent justement de lancer une campagne de sensibilisation, mais déjà, rappelez-nous comment on tombe malade à cause de ces virus. Justement.
Alors c'est vrai qu'on va parler de gestes tout simples et je suis toujours étonné lorsque je dis aux patients qu'ils ont par exemple une rhinopharyngite et qu'elle est virale, qu'elle reste contagieuse. Les parents disent « Ah bon ? Mais je ne savais pas. » Donc que ce soit virale ou bactérien, une infection en ce moment est contagieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de transmission, notamment par exemple des virus, il peut être ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire de personne à personne.
De vous à moi si on se fait la bise.
Exactement, ou si vous éternuez sans mettre la main devant la bouche. Si jamais vous toussez de la même façon, mais il peut aussi être indirect et souvent ça c'est sous-estimé, c'est-à-dire d'un objet vers une personne. À titre d'exemple, le virus de la bronchiolite qu'on observe en ce moment, il survit 6 à 7 heures sur une peluche, donc le doudou que le petit frère va prendre et va donner ensuite à la grande sœur, et ben à ce moment-là, il peut transmettre l'infection. Le virus de la grippe, qui n'est pas encore arrivé, survit 12 heures sur un morceau de tissu. Il peut même survivre de 24 à 48 heures sur une matière plastique, typiquement un jouet qui traîne en plastique, peut être un vecteur important de grippe.
D'accord, c'est vrai qu'on n'y pense pas, cette transmission indirecte. Alors du coup, c'est quoi les gestes simples pour limiter cette contagion ?
Ils sont simples, mais ils sont très importants. Le premier, c'est de se laver les mains régulièrement. Ça peut paraître stupide, mais 80% des virus et des microbes se transmettent par les mains. N'oubliez pas qu'il faut bien se frotter les ongles, parce que souvent on oublie ça. Les espaces entre les doigts. Et qu'on ne remplace pas le savon par une solution hydroalcoolique. Chez les enfants, préférez un savon classique. On utilise un mouchoir à usage unique, parce que sur un mouchoir, le virus de la grippe peut survivre 12 heures. C'est-à-dire le temps de faire un Paris-Barcelone en voiture, c'est pas mal.
Tout s'est éternué.
Mais oui, je suis investi aujourd'hui. Tout s'est éternué dans son coude et pas dans sa main, car un éternuement peut propulser des microbes jusqu'à 6 mètres. C'est le record du monde du saut à la perche. Donc c'est énorme, imaginez.
Fait des calculs aujourd'hui.
Porter un masque, parce que quand t'es malade, ça on oublie. La toux, ça peut propulser des microbes à plus de 50 km/h, soit la vitesse de course, non pas la mienne, mais d'un léopard ou d'un tigre en pleine course. Et donc ces petites mesures toutes simples, je peux vous assurer que ça peut vous empêcher de tomber malade.
Je crois que vous avez fait pas mal de calculs, un peu sportifs d'ailleurs. Ça nous met dans l'ambiance pour la suite de l'émission. Et ces mesures barrières dont vous venez de parler, qui sont plutôt de bon sens, elles sont appliquées par les gens ou pas ?
Eh ben non, le lavage des mains, c'est seulement 40% des gens après avoir pris les transports en commun. Et pareil, lorsqu'il rentre à la maison, éternuer dans son coude, c'est seulement 33% des gens. 25% des gens, un Français sur quatre, gardent leur mouchoir en papier après l'avoir utilisé. Et simplement 15% des gens utilisent un masque lorsqu'ils sont malades.
Puis dernière mesure, Dimi, on l'a déjà dit aussi souvent, pour ne pas attraper la grippe, qui va pas tarder à arriver, la vaccination.
Plus de 65 ans, personne à risque, fragile, pathologie cardiaque, diabétique ou autre.
Il est encore temps.
Femme enceinte, il est encore temps. Chez le pharmacien, votre médecin traitant ou une infirmière en ville.
Merci beaucoup Dimi pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur François Carré, cardiologue et chef du service de médecine du sport au CHU de Rennes.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Carré.
Bonjour madame Gomez.
Alors vous n'êtes pas sur ce plateau, hein, je le signale quand même, vous êtes en ligne depuis Rennes à cause des grèves, c'était compliqué aujourd'hui de vous faire déplacer. Bref, en tout cas on est ravis de vous entendre. Alors avec vous aujourd'hui on va parler des bénéfices de l'activité physique dans plusieurs maladies, même graves. Mais d'abord on va quand même rappeler un petit peu les dégâts de la sédentarité. Justement je crois que les coûts directs et indirects de l'inactivité physique en France, elles ont été chiffrées. C'est quoi ces chiffres alors?
Alors si on met les coûts directs et indirects totaux de l'inactivité physique qui est responsable de nombreuses maladies chroniques, on peut estimer au total à peu près, sur le plan de la santé, on va se mettre à 94 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 11% du PIB, hein, c'est les chiffres qui ont été donnés.
C'est énorme.
Il faut savoir que ça représente dans les pays dits développés 70% des dépenses de santé actuellement.
D'accord, oui, c'est effectivement de très très lourd comme tribu. Le secret donc pour combattre ce fléau, c'est la prévention pour les gens en bonne santé bien sûr, mais aussi pour les malades chroniques, hein, les diabétiques, les asthmatiques, les personnes qui souffrent d'arthrose. Et ça, c'est valable à n'importe quel stade de leur maladie?
Absolument. En fait, dans la prévention, l'idéal c'est d'avoir une vie qui soit saine pour ne pas tomber malade, mais si jamais on tombe malade, on sait aussi que l'activité physique va diminuer le coût de cette maladie parce qu'on va diminuer le nombre de médicaments, par exemple, on va diminuer le nombre de réhospitalisations, etc. Et ça va donc intervenir à tous les stades de la maladie. Donc l'activité physique agit à tous les niveaux de prévention.
Ce qui veut donc dire que, par exemple, un patient qui aurait une insuffisance cardiaque, même lorsqu'elle est sévère, il aura un bénéfice à pratiquer une activité physique, évidemment en complément de son traitement?
Tout à fait. Quelle que soit la gravité de l'insuffisance cardiaque, on a les preuves aujourd'hui que le fait de faire de l'activité physique en plus du traitement classique va être bénéfique pour lui. Il va être moins essoufflé quand il va marcher, il va être moins fatigué. Et ça va lui permettre comme ça d'avoir une vie et surtout une qualité de vie beaucoup plus agréable.
Alors justement, tout ça, vous l'avez évalué. Il y a eu un travail de l'INSERM qui a été réalisé récemment, une expertise collective à laquelle vous avez participé l'an dernier. Un énorme boulot, hein. Expliquez-nous. Vous avez repris toutes les études sur le sujet. Combien de chercheurs, combien de maladies étudiées?
Alors on était 13 chercheurs de différentes spécialités. On a pu analyser, puisqu'on a fait intervenir des gens de l'extérieur, on va dire une vingaine de maladies. Et on a travaillé pendant 3 ans, et puis effectivement, comme vous dites, on a relu au total, pas que moi bien sûr, tout le monde, mais à peu près 1800 articles pour essayer de faire la mise au point.
Sur 10 maladies, hein, le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'obésité, même les maladies mentales, on va en parler. Professeur Carré, on n'en a évidemment pas terminé avec vous, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc s'attarder sur quelques-unes de ces maladies pour lesquelles s'est prouvé le sport. L'activité physique, en tout cas, a fait ses preuves. Se mettre à bouger régulièrement et accompagner de la bonne façon, ça permet même de remplacer les médicaments parfois. C'est le cas dans les maladies cardiovasculaires, dans le cancer. Ça va encore plus loin, se mettre en mouvement permet d'éviter des récidives. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Mélanie Gomez sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur François Carré, chef du service de médecine du sport au CHU de Rennes. Alors professeur, on va s'attarder sur quelques-unes des maladies pour lesquelles les preuves sont là concernant les bienfaits de l'activité physique. Et puisque vous êtes cardiologue, eh bien on va commencer par les pathologies cardiovasculaires. Alors il y a de nombreuses études qui le montrent, hein, il faut y aller, il faut bouger, que ce soit chez les diabétiques, les hypertendus, les insuffisants cardiaques. Là-dessus, il y a plein de preuves, hein.
Ah oui, le nombre de preuves est énorme. En plus, réalisé sur des très grandes populations, donc il n'y a aucun doute aujourd'hui sur les bienfaits de l'activité physique dans toutes les maladies chroniques et en particulier cardiovasculaires. C'est vrai que ça a commencé par les maladies cardiovasculaires, les premières preuves.
Et ça, il faut le faire le plus tôt possible, hein. Dès qu'on est diagnostiqué diabétique par exemple, dès le début, il faut se mettre au sport, il faut bouger, c'est là qu'on en retirera le plus de bénéfices je crois.
Oui, dès le début du diabète, et j'irai même plus loin, même avant, puisqu'il y a un état pré-diabétique, c'est-à-dire quand le taux de sucre dans le sang commence à augmenter de façon un peu inquiétante. Eh bien, le fait de faire de l'activité physique et d'y associer une alimentation équilibrée, parce que bien sûr, l'activité physique va de pair avec l'alimentation équilibrée, eh bien, on a beaucoup moins de chances, 50% de moins de risque de devenir diabétique. Donc c'est énorme, ça évite de rentrer dans une maladie qui va durer pendant des années. Donc dès le début, dès qu'on voit la moindre anomalie, c'est bénéfique d'augmenter son activité physique.
Jimmy ?
Et on est d'accord que lorsqu'on demande au patient de faire une activité physique, on ne lui demande pas, par exemple, de devenir champion de marathon. On parle simplement d'une activité physique et pas forcément d'un sport de haut niveau ou de très grande intensité.
Oui, absolument. Alors, il y a 2 étapes. Quand je ne suis pas malade, pour éviter de tomber malade, il suffit de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 3 fois 10 minutes de marche modérée, par exemple, marche d'un bon pas, et je vais avoir les bénéfices attendus. Par contre, quand je suis devenu malade, malheureusement, il va falloir que, en plus de ce changement de vie, de cette vie des 30 minutes par jour, je mette 3 fois 30 minutes d'activité physique un peu plus encadrée, si je peux dire, par semaine. En fin de compte, c'est pour ça qu'on dit que l'activité physique devient un médicament, puisque on va associer aux autres médicaments une activité physique régulière, mais qui n'est pas du sport. Hein, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle, nous, une activité physique adaptée, qui va être adaptée à chacun.
Si je prends l'exemple de l'infarctus, après un infarctus, par exemple, si on suit cette prescription de 3 fois par semaine, 30 minutes d'activité physique, qui peut être, par exemple, se mettre à la danse, faire du yoga, je crois que les chiffres sont très clairs. Ça permet d'éviter les récidives et même les réhospitalisations, hein, c'est ça. Donc le bénéfice, il est comme un médicament, vraiment.
Ah, tout à fait. On a même plus, puisqu'on a maintenant les preuves. Par exemple, pour l'infarctus du myocarde, on diminue la mortalité des patients. Si je prends un groupe qui ne fait pas d'activité physique, un autre groupe qui a la même maladie, le même type d'infarctus qui fait de l'activité physique, la mortalité est moins de 25 à 30% dans le groupe qui fait de l'activité physique. Donc déjà sur la mortalité, et puis comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi moins de réhospitalisation, moins de récidives qui vont être mises en cause. Donc effectivement, ça agit à toutes les étapes.
Jimmy ?
Et la régularité est-elle importante justement dans cette activité physique chez des patients qui souffrent de pathologies cardiovasculaires ?
Alors cette question est très importante. C'est un médicament. Si je ne prends plus mon médicament, il ne fait plus d'effet. Donc à partir du moment où je vais arrêter de faire mon activité physique régulière, je vais perdre les bénéfices. Et c'est pour ça qu'on dit bien aux gens, pour ne pas tomber malade, faites 30 minutes chaque jour et non pas une fois par semaine 180 minutes ou 2 heures ou 3 heures. Et quand je suis malade, eh bien c'est à vie, il faut que je prenne mon médicament. Comme je prends mes comprimés, eh bien je vais faire mon activité physique, tout à fait.
Oui, on ne prend pas ses comprimés que le dimanche, hein. Quand on est malade chronique, c'est tous les jours, et donc c'est le même principe, hein, c'est ça?
C'est exactement ça, si je ne vais pas prendre 7 comprimés le dimanche, comme ça, ça m'évitera d'en prendre la semaine. Non, je prends mes médicaments chaque jour, de façon régulière, eh bien c'est exactement pareil. L'activité physique agit à peu près pendant 24 à 36 heures, 24-48 heures. Donc si on la fait 3 fois par semaine, on arrive comme ça à couvrir toute la semaine quand on est malade. Et si on la fait chaque jour avant d'être malade, on est aussi dans les clous.
Et on est d'accord que l'ordonnance que vous venez de délivrer de sport, entre guillemets, de 3 fois par semaine, 30 minutes, elle est valable pour toutes les maladies chroniques, hein, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde, l'obésité, c'est toujours la même ordonnance. Après, on parlera des sports en détail, mais c'est ça, toujours pareil, 3 fois, 30 minutes.
C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il faut que le patient se rende compte que même si jamais l'activité physique... Parce qu'il y a bien sûr, comme avec les médicaments, on répond plus ou moins bien aux médicaments. Eh bien là, c'est pareil, on peut répondre plus ou moins bien. Mais par exemple, le patient qui a fait un infarctus du myocarde, eh bien si jamais l'activité physique marche un tout petit peu moins bien chez lui pour l'infarctus du myocarde que les autres, elle va par contre jouer sur d'autres, les autres maladies, puisqu'elle va limiter l'hypertension artérielle, limiter le mauvais cholestérol, limiter éventuellement une bronchite chronique, puisque souvent les gens qui fument font des infarctus ou ont une bronchite chronique. Donc en fait, c'est toujours bénéfique. En plus, ça n'a jamais d'effet secondaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet désagréable.
Professeur Carré, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler des bénéfices de l'activité physique chez les malades chroniques et vous verrez que c'est surprenant, mais le sport, bouger, ça marche aussi comme un médicament dans les maladies mentales, comme la dépression par exemple. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur François Carré, chef du service de médecine du sport au CHU de Rennes. Alors professeur, il y a quelques minutes, on a parlé de maladies physiques, hein, pour lesquelles l'activité physique soigne carrément comme un médicament. Mais à présent, on va voir que même dans les maladies mentales, ça fonctionne très bien aussi, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Nous, les cardiologues, on est ravis de voir que tout le monde profite des bénéfices de l'activité physique. Et par exemple... Il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami neurologue qui m'a dit « La nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. » Alors pour que les neurologues qui ont des maladies quand même qui sont très graves aussi, disent cela, c'est-à-dire qu'ils ont des preuves formelles. Par exemple, aujourd'hui, dans la dépression modérée, minime à modérée, le premier traitement, c'est l'activité physique. On ne doit pas prescrire d'antidépresseurs.
En première intention,
avant les antidépresseurs. Il y a de meilleurs résultats. Et surtout, quand on arrête les antidépresseurs, il y a souvent des récidives, alors que si on continue l'activité physique, on n'a pas de récidive. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et même chose dans la maladie d'Alzheimer. Le seul traitement actuel de la maladie d'Alzheimer, c'est ce que disent les spécialistes en gériatrie, donc en vieillissement des personnes. Ils me disent, mais on n'a rien d'autre actuellement, puisqu'on a bien vu que les médicaments ont été déremboursés récemment. Donc c'est le seul traitement actuel de la maladie d'Alzheimer.
La clé pour que ça marche, c'est le plaisir, hein, on est d'accord, pour que ce traitement fonctionne et qu'il soit durable surtout. D'ailleurs, vous dites, je crois que vous, les médecins, vous êtes longtemps trompés. À une époque, vous disiez aux gens de faire uniquement du vélo ou du tapis de course, mais en fait, s'ils n'aiment pas ça, ça ne marche pas. Hein.
Ah oui, vous avez entièrement raison. Et comme le disait le docteur Mohamed précédemment, comme on va le prendre à vie, on comprend bien qu'effectivement, si on doit faire de l'activité physique 3 fois par semaine et que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est une corvée, on ne va pas le faire. C'est humain, on est tous pareils et je comprendrais parfaitement que les patients disent « Ah ben non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas quelque chose. » Donc comme vous l'avez dit, le but c'est le plaisir, c'est l'envie. À partir du moment où on fait quelque chose avec envie, avec plaisir, ça passe beaucoup mieux. Et donc on s'est trompé parce qu'on disait « Marchez ou faites du vélo » sans demander aux gens « Mais est-ce que vous aimez faire du vélo ?» Et maintenant, on a complètement changé notre fusil d'épaule. On propose toutes les activités physiques, même tous les sports adaptés, on peut les proposer aux patients.
Jimmy ?
Et j'ai cru entendre qu'il y avait même des sports comme le football en marchant qui étaient proposés par des hôpitaux. Ce qui veut donc dire qu'un patient qui peut aimer ça, même s'il ne court pas parce qu'il ne peut pas, ça reste bénéfique pour lui. Il y a peut-être d'autres activités qu'il peut pratiquer ?
Oui, vous avez très bien entendu. Effectivement, aujourd'hui, le football en marchant est proposé par la Fédération française de football dans le cadre du football santé. Et il y a des études qui ont montré qu'on diminuait la pression artérielle, on diminuait le mauvais cholestérol et le diabète chez les gens qui font du football en marchant. Donc effectivement, la règle est simple, je n'ai pas le droit de courir. Donc on va pouvoir faire des gestes techniques. Et les gens qui n'aiment que le football, eh bien, on va leur proposer le football. Et ça va être pareil pour le tennis sur un terrain adapté, avec des raquettes adaptées. Tout est proposé comme cela.
Et vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit par exemple un patient qui n'a pas le droit de courir. Mais est-ce que vous pensez que tous les médecins sont formés, je parle des généralistes dont je fais partie, pour évaluer la réelle capacité d'un patient à pratiquer telle ou telle activité physique ?
Alors, ça c'est une question importante. Dans la formation des médecins, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas dans les études de médecine obligatoires de temps sur la prescription de l'activité physique. Ça va changer puisque le programme doit changer. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas très grave puisque nous, ce que l'on recommande aux médecins, c'est d'abord qu'ils évaluent leur patient, qu'ils l'examinent, qu'ils voient le type de limitation qu'il a. Il va s'arrêter là. Limitation importante, limitation minime, limitation modérée. Et à partir de là, il va l'adresser dans des structures où il va être pris, le patient va être pris en charge par des spécialistes du sport santé et qui vont évaluer ses capacités et pouvoir le diriger.
Je crois que le suivi, les encouragements du médecin aussi, c'est très important pour que ça fonctionne. Il y a une ordonnance, certes, mais il faut que le médecin suive la progression du patient, sinon ça ne fonctionne pas.
Alors c'est essentiel, l'ordonnance marche très bien, puisqu'il a été montré que quand on écrit sur une ordonnance le fait de faire de l'activité physique, les patients nous écoutent plus. Mais le médecin, de mon point de vue, le rôle du médecin, c'est de prendre soin de son patient. Donc pour prendre soin de son patient, il faut s'y intéresser, il faut s'intéresser à sa vie. Donc si j'ai prescrit l'activité physique à quelqu'un et que quand la personne revient me voir quelques mois après, je ne lui en parle pas, la personne va être déçue avec raison. Donc c'est à moi de m'intéresser, c'est à moi de l'encourager, de la féliciter. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces patients dont on parle sont des patients très limités. S'ils sont capables de refaire du football en marchant ou une autre activité, pour moi ce sont des champions olympiques. Donc il faut que je les encourage et que je les félicite.
Jimmy ?
Oui, parce que bon, c'est vrai que le sport, il peut être prescrit depuis 2017. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé. Et je dois vous avouer que moi, je ne l'ai jamais prescrit parce que j'ai du mal à me dire, tiens, je vais mettre sur une ordonnance, faire de l'activité physique, de la natation, 3 fois par semaine, 30 minutes. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un travail de notre côté à faire, nous ? Et puis surtout, peut-être que le sport doit vraiment être remboursé.
Alors, si je réponds d'abord de la part des médecins, je crois qu'il faut que les médecins soient convaincus. Il faut vraiment que les médecins croient les chiffres que nous avons, les preuves que nous avons. Comme je dis, on ne peut pas aujourd'hui, sauf si on est intellectuellement malhonnête, ne pas croire dans les chiffres et dans les preuves. Donc le médecin doit vraiment prendre ça en charge et prescrire. Et les malades doivent lui demander si jamais ils ne le font pas. Et puis pour répondre à la deuxième partie de votre question, le problème de la prise en charge reste un problème. Il y a un blocage de la part de la Sécurité sociale. Je discute régulièrement avec les gens de la Caisse nationale d'assurance maladie et je leur dis que je ne comprends pas vu les preuves que l'on a. Mais il faut savoir que ça avance. On a entendu Madame la ministre de la Santé dire qu'il y aurait au niveau des cancers une participation. C'est pas très clair ce qui va être pris encore, c'est pas bien défini, mais il va y avoir un premier geste qui va être fait. Et puis maintenant, il y a les mutuelles. Il y a plusieurs mutuelles qui commencent à prendre en charge.
Oui, c'est vrai.
Et puis, il faut savoir qu'il y a pas mal de villes qui participent par l'intermédiaire de l'Agence régionale de la santé, c'est-à-dire qu'il y a une participation aux frais de la prise en charge. Donc, les choses se mettent en place, pas aussi vite que nous l'aimerions, nous tous qui nous battons pour l'activité physique comme médicament, mais je pense qu'on est dans la bonne direction.
Merci beaucoup, professeur Carré, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct de Rennes pour nous aider à comprendre précisément comment l'activité physique nous guérit, donc au même titre que les médicaments. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à une infection sexuellement transmissible, l'infection à gonorrhée. Vous la connaissez peut-être plus sous le nom de chaude pisse. On vous dit tout dans quelques minutes sur son dépistage et son traitement, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une infection sexuellement transmissible. Savez-vous ce qu'est l'infection à gonorrhée, celle qu'on appelle aussi la chaude pisse? Connaissez-vous les symptômes qui doivent alerter et comment ça se soigne? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Gonorrhée, je ne sais pas. Je connaissais Sodome et Gomorre, mais gonorrhée, non, pas du tout.
La gonorrhée, je ne sais pas ce que c'est.
Je sais pas, une bactérie transmissible par relation sexuelle.
C'est pas un champignon? Un champignon, c'est une IST, non?
Ah bah si c'est champignon, ça peut être des démangeaisons.
Je sais pas ce que c'est, mais j'aimerais pas en avoir.
Aucune idée, je sais pas, des rougeurs ou...
Ça doit être du pu ou que c'est sûrement comme un petit peu comme des champignons, peut-être des plaques rouges ou peut-être peut-être des plaques un peu urticantes, enfin quelque chose qui gratte.
Oh, ça doit gratter ça.
Bah, quand on a ça, je suppose qu'il faut un antimycose.
Un traitement médicamenteux? Une pilule à prendre tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas.
Je pense que ce n'est pas courant vu que je n'en ai pas entendu parler.
Alors ça n'a rien à voir avec Sodome et Gomorre, Jimmy. On va faire un point sur cette infection en elle-même. Donc les gonorrhées, la chaude pisse, ça c'est peut-être un peu plus connu dans la tête des gens. Comme son nom l'indique, j'imagine que quand on l'a attrapé, cette infection à gonorrhée, donc la chaude pisse, ça pique quand on fait pipi, non?
Ouais, exactement. C'est même au-delà que ça pique, ça brûle et on a l'impression de pisser des lames de rasoir. C'est ce que les patients décrivent. Et c'est lié à une infection à une bactérie, donc le gonocoque, qu'on appelle aussi du coup la chaude pisse, la blénorragie. Et cette bactérie, on la développe seulement après une infection sexuellement transmissible. Et donc, à ce moment-là, l'infection peut donner ses symptômes urinaires à type d'urétrite, mais l'infection peut aussi remonter, donner ce qu'on appelle une épididymite, l'infection du testicule, ou parfois...
Épididymite,
ouais, exactement, l'infection du testicule, avec un testicule qui est très douloureux, qui est rouge, qui est inflammatoire, avec de la fièvre. Et parfois, la bactérie remonte jusqu'à la prostate et donne la prostatite. Et chez la femme, on peut avoir les mêmes symptômes avec des signes urinaires et des pertes un peu verdâtres, sales.
D'accord. Et donc le premier signe, c'est en général quand ça pique, ça brûle, vous avez dit comme des lames de couteau quand on fait pipi. C'est ça, hein, c'est vraiment le premier symptôme.
Oui, ça c'est lorsqu'on a la forme avec une atteinte finalement distale au niveau de l'urètre et donc on a des signes urinaires francs. Mais par contre, cette bactérie, on peut la voir au niveau du rectum et de la gorge, et donc à ce moment-là, on peut être porteur de la bactérie.
Mais être asymptomatique.
Exactement,
hein,
ne pas avoir de symptômes, mais on reste contagieux. Et donc dans la moitié des cas, on n'a aucun symptôme, mais on a la bactérie et on peut la transmettre aux autres. Chez la femme, on a des signes urinaires qu'on retrouve comme chez l'homme, et puis on a ce qu'on appelle une cervicite, c'est-à-dire l'infection du col, qui donne des écoulements blancs, marrons, verdâtres,
voire sanguinolents,
qui peuvent être très douloureux, et parfois on peut la découvrir à l'occasion de complications, et notamment une infection plus sévère chez la femme qu'on appelle la salpingite.
D'accord. Et comment on attrape ça? Vous avez dit c'est donc les rapports sexuels à risque, j'imagine. C'est uniquement par voie sexuelle?
Oui, exactement. C'est uniquement par voie sexuelle. Parfois, on me demande si sur la cuvette des toilettes, on peut l'attraper. Non. Ce qui veut donc dire que si vous l'avez, c'est qu'il faut faire dépister votre ou vos partenaires, parce qu'à ce moment-là, il faudra aussi la traiter. Donc, c'est une infection sexuellement transmissible. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de pénétration pour l'avoir. Un rapport bucogénital, peut entraîner la même chose. Donc, pas forcément de pénétration pour avoir cette bactérie.
Et rappelons, c'est très important que si on est contaminé et pas traité, ça peut entraîner donc des graves complications, voire la stérilité.
Exactement,
hein, chez les femmes,
notamment
parfois.
Chez la femme, salpingite, et notamment parfois on a d'autres bactéries comme le chlamydia qui entraînent des adhérences et qui donnent du coup une stérilité secondaire.
Rapidement, ça soigne par contre?
Traitement minute d'antibiotiques, c'est pas parce que c'est une traitement minute, c'est-à-dire en une dose, que c'est pas grave, hein, c'est pas le fast-food, on a l'infection, on se fait traiter, à force on a des résistances. Donc le meilleur moyen, c'est la prévention, donc d'utiliser des préservatifs.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des questions de nudité au sein du couple. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints dans ce studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui on va répondre à la question que nous a posée Céline, je vous la lis, elle est courte et efficace la question. Mon mari se promène régulièrement nu dans l'appartement, est-ce qu'il est exhibitionniste? Alors au moins c'est clair, hein, la question n'est pas compliquée. Catherine, est-ce que le fait de se balader tout nu chez soi, ça a un rapport avec le fait d'être exhibitionniste? Pas un peu excessive là, Céline, non?
Bah, tout dépend. Enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que si la question est simple, la réponse l'est moins parce que s'agit-il en effet de quelqu'un qui impose sa nudité alors qu'elle est en difficulté avec sa propre nudité et la nudité de l'autre et qu'elle le vit comme une sorte d'affirmation de sexualité qui lui est imposée, voire lui est imposée à elle ou peut-être aux enfants. Hein, c'est aussi
oui,
ça pose aussi
là,
la question
ouais.
de savoir s'il y a des enfants dans cette famille, dans ce lieu qui assiste à un papa qui se balade à droite et à gauche, ce qui en soi n'est pas problématique. Si on vivait dans une tribu africaine, on ne poserait pas la question de cette nudité. C'est évidemment par rapport à notre culture personnelle et notre idée de pudeur personnelle.
Mais elle dit, est-ce qu'il est exhibitionniste ? C'est à la maison que ça se passe. Enfin, il se balade pas tout nu dans la rue. Donc, c'est quoi l'exhibitionnisme, s'il y avait une définition d'ailleurs ? Parce que je sais pas.
L'exhibitionnisme, c'est imposer à l'autre une sexualité. C'est-à-dire, c'est je t'impose quelque chose et une pensée sexuelle quand toi, tu n'es pas nécessairement dans cette pensée-là. C'est-à-dire que l'exhibitionniste du jardin public, c'est celui qui, non content de se balader le zizi à l'air, puisque
c'est souvent
but,
comme ça.
Voilà, comme le but, c'est un petit peu, en général, plutôt de viser des petites filles ou des petits garçons, c'est pour ça que je dis zizi, sinon je dirais pénis, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un jeu avec l'idée de l'immaturité de l'autre, quand bien même c'est un adulte. Donc il y a une façon de, c'est pas le tout d'être nu, c'est le tout de mettre dans la tête de l'autre une idée sexuelle, alors que l'autre n'était pas préparé à cela et pas en capacité, éventuellement, de faire face à cela.
Jimmy ?
Et alors qu'ils sont en couple, je pense qu'elle a déjà vu son mari nu, pourquoi est-ce que ça la dérange qu'il se balade nu s'il n'y a pas d'idée sexuelle derrière et s'il n'y avait pas d'enfant aux alentours ? On peut trouver ça...
C'est son mari,
c'est
quoi.
C'est son droit, non ? Ou c'est son mari, en plus
Peut-être juste tranquille, décontracté, quoi.
C'est ça. Je ne vous laisse pas terminer la phrase, c'est ça ?
C'est
J'ai senti que vous vous étiez arrêté en cours de route. Bon. Donc, effectivement, c'est la question de la sexualité n'est que dans la tête de celui qui met de la sexualité. C'est-à-dire qu'on peut être nu sans qu'il n'y ait la moindre sexualité, la moindre idée de sexualité. Mais manifestement, pour elle, c'est de la sexualité. Et c'est pour ça qu'elle imagine son mari exhibitionniste. Parce que, encore une fois... Si on est dans le film Gazon maudit où on a Shabba qui dit «
Je suis tout nu, je fais
ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux. » Là, c'est une volonté d'affirmer une position sexuelle à quelqu'un qui la refuse. On peut aussi se dire que quand on est chez soi, justement, on peut se débarrasser de ses obligations de cacher ce qui dérange le monde, puisqu'on est dans son univers à soi et on peut aller de sa chambre à sa salle de bain, à son salon, pourquoi pas. Simplement, si cet homme est toujours nu et il est nu à table et il est nu dans le salon et on voit bien qu'il y a quelque chose d'inapproprié, c'est-à-dire que...
À partir du moment où ça la gêne d'ailleurs et elle pose la question, finalement c'est qu'il y a quelque chose d'inapproprié sûrement.
Exactement, ouais. Donc peut-être que dans sa sexualité ils sont tout feu, allumés et nus, mais ça c'est le champ de la sexualité et ça peut lui convenir ou pas, hein, parce que là on l'a fait parler, on ne sait pas ce dont il s'agit pour elle, mais manifestement la limite, c'est difficile d'arbitrer de ce qui se passe pour lui, mais plutôt de parler de ce qui se passe pour elle, de toute évidence une difficulté à accueillir le corps de l'autre et le sexe de l'autre quand elle n'est pas branchée sexuelle.
Jimmy ?
Bah surtout, bon, je peux la comprendre, c'est vrai qu'avoir le zizi à l'air quand on est en train de manger, faire une partie d'échecs, c'est pas forcément nécessaire. Donc elle pourrait peut-être lui donner un peignoir ou lui dire tiens, mets au moins un caleçon.
Pour Noël.
Et elle peut tout simplement faire ça. Si elle est gênée, elle peut lui dire, c'est quand ils sont quand même ensemble.
Bien sûr qu'elle peut lui dire. Après, lui, il est peut-être naturiste et vous savez très bien que dans les camps de naturistes, la partie d'échecs ou même faire les courses au supermarché se fait une tout nue parce que c'est justement une façon de mettre à distance l'idée justement de la sexualité. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour lui, peut-être, c'est antisexuel, parce qu'à partir du moment où je suis nue, je nie le sexe parce que c'est mon corps qui est simplement libre, quand l'autre n'y voit que du sexuel. Et c'est toute la difficulté, c'est pour ça que dans les camps de naturistes, les gens ne sont pas invités à venir regarder parce que dans leur esprit, c'est sexué, alors que pour ceux qui sont dans la tranquillité de pouvoir se dénuder, et donc à partir du moment où on s'habille, c'est qu'on cache quelque chose, alors qu'à partir du moment où on se déshabille, c'est qu'il n'y a plus rien à cacher. Et c'est toute l'ambivalence entre les uns et les autres et le rapport à la sexualité des uns et des autres. Donc souvent la nudité n'est pas ce que l'on croit.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Demain dans son rendez-vous, on va parler d'une opération qui est quasi l'une des plus fréquentes en France, l'opération de la myopie. Plusieurs lasers permettent de se débarrasser une bonne fois pour toutes des lunettes chez les patients myopes. On fera le point. Mais en attendant, je cède la place à Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipe est sauvage arrive avec des chroniques polémiques aujourd'hui puisque nos journalistes ne sont pas d'accord entre eux sur les chiffres d'entrée du cinéma. Il va y avoir une grande battle en présence d'un invité particulièrement sympathique aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on en a reçu des invités sympas, mais là, le chanteur Tété est avec nous. Il va nous faire en plus un live. Vous êtes obligés de rester, Mélanie.
Oui, on va rester. Beau programme. On sera à l'écoute, promis. Bonne émission et vous, restez sur Europe 1.